Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez jusqu'à 11h, on essaye de répondre à la question suivante. Comment une substance jugée nocive pour la santé dans certaines circonstances peut être légalisée pour d'autres usages? Je vous parle du cannabis. Le cannabis responsable de troubles psychiatriques graves qui pourrait être autorisé en France pour usage thérapeutique. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de bénéfices, beaucoup de vertus. Des patients viendront nous en parler aujourd'hui. Qu'en pense la communauté de médecins, de chercheurs, les malades, les consommateurs? Eh bien, on vous écoute au Standard Europe 1. On fait le tour de la question avec tous ces témoignages croisés pour nourrir cette réflexion. Et on vous attend dès maintenant, Julie, le standard est ouvert.
Le 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et si on vous parle du cannabis thérapeutique aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille d'une conférence qui se déroule demain à Paris, à la Maison de la Chimie, Cannabis Europa, conférence européenne, donc qui va accueillir les leaders de cette réflexion sur le cannabis thérapeutique. Est-ce que nous sommes prêts à accepter en France l'usage de cette drogue pour soulager les douleurs des maladies chroniques? Eh bien, pour parler correctement de ce sujet, il faut bien le comprendre. Jean-Michel Delisle, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Psychiatre, addictologue, président de la Fédération Addiction. Raquel Peyraube est avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes venue d'Uruguay aussi pour cette conférence et Exactement. Vous êtes là-bas docteur en médecine, addictologue et vous militez pour le cannabis médical.
On va
en
Pas parler. Seulement médical.
Pas seulement. Très bien. En Uruguay en l'occurrence. Franck Milon est avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous souffrez aujourd'hui d'une sclérose en plaques et vous avez bénéficié de ces différents traitements à base de ce qu'on appelle les cannabinoïdes dont vous allez témoigner sur le sujet, vous qui représentez l'Union francophone pour ces cannabinoïdes. Alors, il faut faire le distinguo que je posais d'entrée de jeu, Jean-Michel Delisle, entre le cannabis qui est une drogue, dont on pointe du doigt les responsabilités, sur notre cerveau notamment, et le cannabis qui pourrait être vertueux. Et là, il y a un paradoxe que vous devez nous expliquer.
Ah, c'est un paradoxe qui est général dans le domaine des substances psychoactives. On le constate aussi, on le relève avec les opiacés. Par exemple, la morphine est un excellent médicament dont nous avons tous besoin si nous devons être opérés pour ne pas souffrir. Et en même temps, c'est un produit d'addiction qui peut être redoutable pour de nombreuses autres personnes. Mmh. Et c'est un peu pareil avec le cannabis. On se rend compte qu'il y a évidemment des applications médicinales qui sont connues de longue date, mais qu'il y a aussi des risques, notamment des risques d'addiction, des risques cognitifs, des risques psychiatriques. Le tout est donc de trouver comment arriver à dégager une voie qui nous permettrait de permettre d'utiliser ces substances-là pour des personnes qui en auraient réellement besoin, par exemple pour apaiser une douleur insupportable, sans pour autant diffuser cette substance de façon généralisée, ce qui à ce moment-là pourrait avoir un effet totalement négatif sur la population et notamment sur les jeunes. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver cet espace de régulation qui nous permettrait de permettre à des personnes d'avoir accès aux bénéfices sans pour autant mettre en danger la population.
Il faut rappeler que nous n'avons pas de cadre légal aujourd'hui en France sur le sujet, si ce n'est qu'on n'autorise pas, en l'occurrence, l'usage de ce cannabis thérapeutique. On ne l'autorise pas, mais Franck Milon, vous êtes français, vous vivez en France et vous bénéficiez de ces cannabinoïdes.
Alors j'en bénéficie, mais dans une situation d'illégalité en réalité, puisque je m'approvisionne comme l'ensemble des Français illégalement en cannabis. Donc j'en bénéficie, mais je ne suis pas dans le cadre de la loi, puisqu'aujourd'hui je pourrais bénéficier d'un traitement qui s'appelle le Sativex, mais qui a reçu une AMM et qui n'est pas disponible dans le système de santé français, qui repasse un comité de transparence, mais qui concerne donc une préparation pharmaceutique avec une dose de THC et une dose de CBD en spray sublingual. Ce traitement-là pourrait peut-être me satisfaire, mais à l'heure actuelle, il est indisponible. Donc,
qu'on comprenne bien, Franck Milon, parce que vous souffrez de sclérose en plaques.
Moi, j'ai une sclérose en plaques qui m'impacte au niveau des douleurs des spasmes, surtout mon côté droit,
d'accord,
et surtout qui génère une énorme fatigue. En fait, il y a une fatigabilité dans la sclérose en plaques et pour laquelle il n'y a aussi pas de réponse thérapeutique. Donc moi, c'est sur ces deux cadres-là dans lesquels ça m'aide. Et sur l'aspect fatigue, les médecins et les professeurs qui me suivent n'ont pas de proposition. Là, on m'a déjà fait une prescription hors AMM d'un anti-parkinsonien, la Mantadix, pour évaluer, pour voir si ça fonctionnait. L'effet était très minime.
Je peux vous faire réagir, Jean-Michel Delisle, sur ce dont bénéficie Franck. Voilà, typiquement des malades comme Franck, atteints de la sclérose en plaques avec tous ses effets secondaires, sont des patients recevables pour l'administration de ce cannabis thérapeutique. psychotique ?
Absolument. C'est-à-dire là, c'est une des indications les mieux reconnues, hein, tous ces troubles douloureux, spastiques, ces contractures dans le cadre de la sclérose en plaques.
Parce que ça décontracte.
Voilà. Et ça apaise également les douleurs. Donc c'est tout à fait remarquable dans cette indication-là. C'est une des raisons pour lesquelles, il y a quelques années déjà, l'Agence du médicament avait donné un avis favorable à la mise sur le marché en France de médicaments, le Sativex, avec cette indication très très précise. Hélas, par la suite, la Haute Autorité de Santé est entrée dans des négociations complexes au plan tarifaire avec le laboratoire, ce qui fait que ce médicament n'a pas effectivement été dans la réalité mis sur le marché dans les pharmacies.
D'accord.
Si bien qu'il est autorisé, mais il n'est pas disponible, ce qui est totalement une aberration
actuelle. Si Franck est votre patient et que vous lui administrez ces cannabinoïdes, où est-ce qu'il va les acheter ?
En Espagne ou en Hollande.
Voilà. Et
donc vous êtes obligé de vous déplacer
pharmacie,
ou vous pouvez commander ?
Tout à fait, c'est ça. On doit se déplacer dans une pharmacie à l'étranger et il n'y a pas de disponibilité en France. Donc c'est complètement invraisemblable.
Raquel voulait réagir, Raquel
Perrot. En plus, c'est tellement cher et c'est pas subventionné par la santé publique.
Oui.
Vous savez que
c'est pas remboursé.
Je travaillais à la légalisation du cannabis en Uruguay. Mm-hmm. En Uruguay, le modèle a été pas seulement pour l'usage médical, mais aussi pour l'usage adulte.
D'accord,
et industriel.
Ça c'est particulier, oui.
Et le problème que nous avons avec les médicaments à base comme les Sativex et maintenant l'Epidiolex, c'est la même compagnie pour l'épilepsie, mais pas seulement, c'est le CBD. Et c'est tellement cher et presque il n'y a pas des pays qui ont inclus dans la santé publique, la subvention de ces produits.
Ça veut dire quoi, cher Franck
Bilen ?
Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du Sativex pour un mois, ça revient entre 400 et 600 euros par mois et par patient.
Et pas remboursé.
Et qui ne serait. Justement, actuellement, c'est la négociation qui se passe en comité de transparence et au CEPS. Et dans plein de pays, même en Suisse, la situation est la même. Alors que nos voisins allemands ont du coup légalisé le cannabis à usage thérapeutique. Et dans le cas des maladies lourdes, ce cannabis, sur dossier, on envoie un dossier à la Sécurité sociale et aux mutuelles, et ils doivent rembourser le cannabis pour ces pathologies lourdes.
Oui.
La prescription a été ouverte à un panel assez large de maladies, mais elles sont remboursées uniquement sur les pathologies lourdes.
C'est ça le problème, c'est que là, il y a quelque chose de malsain. C'est que finalement, vous déboursez 400-600 euros comme on pourrait débourser 400-600 euros, hélas, pour de la drogue.
C'est le paradoxe complet de la situation actuelle, c'est-à-dire que comme les médicaments qui, eux, ont fait l'objet d'études de rapports bénéfice-risque ne sont pas accessibles dans notre pays, un certain nombre de patients utilisent du cannabis acheté en fait dans la rue, au marché noir, à défaut de pouvoir avoir les médicaments. Mmh. Ce qui fait que ces restrictions d'accès à des médicaments sont une des voies d'entrée en fait vers l'usage ou l'abus de substances illégales et qui, elles, ne sont absolument pas contrôlées ni sur les teneurs, ni sur les mélanges. Donc on est dans une situation intenable.
D'où la difficulté de ce sujet-là. On va prendre le temps, et on a le temps ensemble, de dresser justement les contours, les difficulté aussi d'appréhension de ce sujet-là. Jusqu'à 11h avec le docteur en médecine Raquel Perrot, avec Franck Milon qui représente l'Union francophone pour les cannabinoïdes, qui souffre de sclérose en plaques et qui va nous parler plus en détail justement des vertus pour vous de ce traitement. Jean-Michel Delisle, que vous avez entendu, psychiatre et addictologue également. À tout de suite sur Europe.
Jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard, le tour de la question sur le cannabis à usage thérapeutique.
On va parler de la législation française en la matière et du pourquoi le débat est régulièrement relancé. En l'occurrence, demain, nous avons une grande conférence à Paris sur le sujet, conférence européenne qui essaye de soulever des questions, des réflexions sur l'efficacité de ce cannabis à usage thérapeutique, alors que plusieurs pays ont commencé à le légaliser. C'est le cas donc en Uruguay, Raquel Perrot, le cannabis est légal, le cannabis thérapeutique est légal dans votre pays.
Oui, depuis
vous êtes médecin
5 années, d'accord. Le décembre passé, on a passé 5 années.
Oui.
Et même quand même, nous avons encore des problèmes.
C'est-à-dire?
Le problème, c'est pas seulement légaliser. Parce que la culture prohibitionniste est transversale à toute la population, même les politiciens.
Mmh.
Alors, on a la loi, mais la bureaucratie, ce n'est pas préparé pour la mise en place de tous les composants de la légalisation. Alors, le problème que nous avons en Uruguay est que depuis 5 années, on a seulement un produit légal, de prescription régulière. On n'a pas besoin de prescriptions spéciales.
C'est-à-dire qu'on peut aller le chercher en pharmacie ?
Oui.
Ah, sans ordonnance ?
avec ordonnance, normale. C'est pas psychotrope.
D'accord.
Parce que c'est seulement à base de CBD, de cannabidiol. Mm. C'est le produit, que les composants, les cannabinoïdes, qu'on utilise la plupart de cas pour les enfants avec l'épilepsie,
d'accord,
pour aussi l'autisme. Des différents.
Et sur ces produits-là, pardon, Raquel, quels sont les résultats?
Bon, à mon avis, ils sont très bons. Je travaille à la prescription de cannabis et le traitement depuis 30 années avec des patients qui utilisent de la drogue. Je suis addictologue quand même. Mm. J'ai connu le cannabis et les effets positifs du cannabis en travaillant avec les patients qui utilisaient de la cocaïne fumable, pas de base, et de la cocaïne. Et je voyais que les patients qui utilisaient du cannabis marchaient mieux que les patients que pas. Mm. Alors, je commençais à dialoguer avec eux et je me suis rendu compte qu'il y aurait la rechute et quand ils allaient de nouveau acheter le cannabis, ils rechutaient à la cocaïne ou à la pâte base. Alors, je commençais à parler avec les familles et ce sont les parents qui ont commencé à acheter dans le marché noir. C'est-à-dire, je n'avais pas de coffee shop comme en Hollande.
Ouais, bien
j'ai
sûr.
Créé la séparation de marché. Et ça marche. Alors, j'ai commencé à étudier il y a 20 ans.
Ah oui, ouais, alors donc là, on va revenir régulièrement sur votre exemple de l'Uruguay, qui est très intéressant.
Sur votre expérience,
absolument. Mais Jean-Michel Delisle, addictologue, vous êtes addictologue tous les deux. C'est toujours le bénéfice-risque. C'est difficile à évoluer. J'imagine à la fois, Franck Milon témoignera, on se sent mieux, mais est-ce qu'on connaît les impacts sur le cerveau, sur la santé global aussi de ces médicaments?
C'est toute la difficulté. Alors le seul avantage que nous avons en France à être un petit peu en retard par rapport à cette dynamique, c'est que ça nous a donné le temps d'étudier les expériences internationales et de voir un peu ce qui se passe dans les différents États des États-Unis, au Canada, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et finalement, l'expérience a tendance à démontrer que ce qui semble être le plus efficace, c'est-à-dire qui permet à la fois aux patients qui en ont besoin d'avoir accès à ces médicaments sans mettre en danger la santé publique, notamment la santé des jeunes, ce sont précisément des cadres de régulation un peu médicalisés, c'est-à-dire qui définissent des indications utiles, notamment des douleurs réfractaires, les troubles spastiques dans la sclérose en plaques, des syndromes qui associent des vomissements, des nausées, d'un maigrissement dans le cadre de cancers évolués, etc. Et qui peuvent permettre à ce moment-là de cibler l'accès du cannabis thérapeutique pour des personnes qui en ont vraiment besoin et pour lesquelles, évidemment, le rapport bénéfice-risque est favorable.
Sûr.
Sans pour autant le mettre en libre accès pour la moindre insomnie, comme ça a été le cas en Californie ou autre, où là, du coup, on élargit tellement la cible thérapeutique qu'on arrive à avoir affaire à des jeunes gens qui ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, en très grande souffrance, mais qui vont peut-être trouver dans le cannabis des effets euphorisants, des effets drogues, qui, à ce moment-là, eux, peuvent avoir des effets plutôt négatifs au plan cognitif et au plan psychologique. Si bien que on essaye de s'orienter vers une approche qui serait une approche régulée, médicalisée, avec des indications, un cadre de prescription et de délivrance qui pourrait permettre aux personnes malades d'avoir accès aux produits sans mettre en danger les jeunes.
Très intéressant, oui. Raquel et Julie, une question.
À mon avis, je crois que même, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, mais je pense que les jeunes ils l'utilisent avec nous ou sans nous. Mmh. Alors, je crois que la responsabilité public de point de vue de la santé.
Là, on parle du cannabis à usage récréatif.
C'est de créer les conditions, de régler et de rester, parce que l'illégalité ouvre le marché.
Oui.
On ne peut pas le contrôler. Mais si c'est l'État qui a le contrôle sur la substance, c'est beaucoup plus mieux. Alors, je pense que même s'il y a des risques, c'est le psychotrope qui a les moindres comparé avec l'alcool, avec le tabac, avec les opioïdes, avec la cocaïne. C'est 9% des dépendances chimiques et c'est vrai qu'il a des impacts négatifs.
Oui,
on doit les contrôler, mais c'est l'éducation.
Les parents et les enfants qui nous écoutent, les ados qui nous écoutent, et ils ne peuvent pas dire écoutez bien, la docteure a dit que c'était la moins nocive des drogues.
Non,
c'est pas le discours que vous tenez.
Non, ça ne veut pas dire il faut pas contrôler, il ne faut pas commencer l'usage trop jeune, il y a des conséquences, tu as l'effet cognitif et des
développements de maladies psychiatriques aussi. Hein. Ouais.
Mais si les parents, si la légalité autorise les parents éduquer les enfants à l'usage, comme on peut utiliser l'éducation pour l'utilisation d'alcool et comprends. Tous les autres, ouais. C'est bien. C'est mieux.
Voilà, l'encadrement. Julie, vous avez une question.
Moi, ce sont les effets négatifs de ces produits à base de cannabis sur les enfants qui me troublent un peu. Parce que comment on peut donner ce produit dès l'enfance? Vous parliez d'enfants épileptiques, par exemple. On utilise ces produits-là pour un enfant,
ouais.
Mais avec tous les effets négatifs, l'euphorie, le trip.
Non, enfin, c'est pas le même produit. Ce que je voudrais expliquer, c'est que la plante a beaucoup de composantes. Et même, il y a beaucoup de cannabinoïdes. Quelques-uns sont des psychotropes, psychoactifs, comme le THC, c'est tétrahydrocannabinol. Ça, c'est le component qui produit les effets cognitifs et sur le
THC.
Développement des
cellules. C'est positif, là.
Mais le cannabidiol, ça, c'est l'effet négatif.
Il ne faut pas dire que le THC est négatif, parce que le THC a plein d'intérêts thérapeutiques. Mais effectivement, c'est celui qui va induire l'euphorie. C'est l'euphorie ou ce qu'on peut qualifier de
l'effet de la drogue habituellement.
Et on sur les enfants, les effets négatifs.
Et on va en parler, si vous voulez bien, des effets sur les enfants, parce que Sébastien est avec nous. Sébastien a un enfant atteint d'une maladie incurable, un petit garçon qui bénéficie de ce cannabis thérapeutique, et il va nous en dire davantage justement sur les effets, sur la santé de son petit bout de chou. Jean-Michel Delisle est avec nous. Raquel Perrault, ils sont addictologues tous les deux. Franck Milon vient témoigner aussi, lui souffre d'une sclérose en plaques et il bénéficie de traitements à base de cannabinoïdes, mais évidemment il est dans l'illégalité aujourd'hui pour s'en procurer, car nous n'avons pas de régulation de loi en la matière. À tout de suite.
Nous parlons du cannabis thérapeutique et à la veille d'une conférence européenne demain à Paris sur le sujet, on se demande en quoi et pourquoi le cannabis peut être thérapeutique.
Et vous parliez des risques sur les enfants,
sur
Julie.
Les enfants qui n'ont pas l'habitude de prendre de la drogue, évidemment.
Absolument. Je vais donner la parole juste après ce témoignage à Raquel Perrault, docteur en médecine, addictologue, qui vient d'Uruguay, qui milite pour le cannabis dans son pays. Jean-Michel Delisle, psychiatre et addictologue, président de la Fédération Addiction. Et avec nous, Sébastien Cotte. Bonjour, monsieur. On a un petit décalage parce que vous êtes loin. Vous êtes aux États-Unis, mais je vous remercie beaucoup de prendre le temps et aussi le courage de venir témoigner sur ce sujet-là, parce que vous avez un petit garçon qui est atteint aujourd'hui d'une maladie incurable et qui profite, et je dis profite parce que vous le voyez dans votre quotidien, de l'effet de ce cannabis thérapeutique.
Oui, tout à fait. Donc j'ai un petit garçon, il s'appelle Jagger et il a 8 ans et demi maintenant. Mm-hmm. Et il a une maladie très rare, la maladie de Lyse, qui est une maladie mitochondriale avec une espérance de vie de 4 ans en fait. Et donc on habite aux États-Unis et juste avant son 4e anniversaire, on a décidé, on habite en Géorgie à Atlanta et il n'y avait pas de loi pour se servir du cannabis thérapeutique. Donc, on a décidé de déménager contre avis médical au Colorado pour avoir accès au cannabis thérapeutique pour Jagger. Et ça fait une très, très grosse différence pour lui. Il a déjà 8 ans et demi maintenant. Il est encore en vie aujourd'hui, grandement grâce au cannabis thérapeutique. On a réussi à réduire ses crises d'épilepsie de 10 à 12 par jour à 2, 3, peut-être 4 par jour. On a réussi à réduire ses douleurs musculaires. Il avait des grosses, grosses douleurs musculaires d'à peu près 90%. On a pu arrêter de lui donner de la morphine et de l'oxycodone grâce au cannabis. Donc, en fait, vous en avez parlé un petit peu au début, mais la morphine et l'oxy, c'est des médicaments, surtout pour les enfants, qui les mettent en mode zombie, en fait.
Oui,
ils sont vraiment très passifs. Et donc, maintenant, on a retrouvé Jagger, en fait. Après une semaine qu'on était au Colorado, il a souri pour la première fois depuis 3 ans. Et donc, tout ce voyage qui était un voyage horrible, qui nous a pris 6 jours en voiture, parce que Jagger n'a pas le droit d'être dans un avion, parce qu'il est trop malade et a besoin de trop d'oxygène pour prendre l'avion commercialement. Donc, on a mis 6 jours de voiture, un voyage qui doit faire normalement 14 à 17 heures. On peut s'arrêter toutes les 3-4 heures pour aller à l'hôtel, pour le calmer, pour lui redonner de l'oxygène. Ce voyage, en fait, c'est quand même un gros positif, parce qu'au bout d'une semaine, de le voir sourire, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, c'était miraculeux pour nous, en fait.
C'est chou. Pardon Sébastien, je voudrais juste vous poser la question, comme on a le décalage, je suis obligée d'empiéter un peu sur vos propos. À quel moment avez-vous pensé au cannabis thérapeutique? Est-ce qu'on en parlait dans le pays aux États-Unis où vous habitiez, malgré l'interdiction dans l'État précédent? Ou est-ce que simplement ça vous est venu, cette réflexion, en cherchant tout simplement, vous, des solutions?
Eh ben, en fait, c'est venu dans l'automne 2013. Je regardais une émission qui s'appelle Weed de Sanjay Gupta sur CNN. Et il y avait une histoire d'une petite fille qui servait du cannabis pour ses crises d'épilepsie. Et ça a été un peu le déclic dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que j'étudie ça pour Jagger. Il n'y a aucun médicament aujourd'hui approuvé aux États-Unis ou dans le monde entier pour les maladies mitochondriales. Donc, il n'y a vraiment aucun espoir pour ces enfants-là. Et donc, c'était un peu notre lumière, notre espoir, notre lueur d'espoir, ce qui m'a été thérapeutique. Jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé que ça marcherait à ce point-là. Bon, c'est pas une cure. Jagger est quand même très malade. Il est quand même un sous-hospice. Et c'est comme une maladie progressive. Mais on lui a rendu une qualité de vie impensable et inespérable avec les médicaments qui existent aujourd'hui. Et il n'y a que le cannabis qui a pu faire ça et qui peut faire ça pour lui aujourd'hui.
Oui, Sébastien, témoignage très, très fort. Et on pense à votre quotidien et à ce petit Jagger. Jean-Michel Delisle, voilà, vraiment là, on est dans la réalité d'un enfant qui, quand même, est soulagé. Dans le bénéfice-risque, c'est vrai que ces petits bouchons n'ont pas l'habitude d'ingérer des substances comme celle-ci, mais pour le coup, ça lui fait du bien au quotidien.
Oui, et puis on ne peut qu'être touché par le témoignage et par le sourire qui est revenu chez cet enfant et chez ses parents. Ça illustre bien que dans certaines indications précises par rapport à certaines maladies rares, notamment des maladies épileptiques, plus ou moins génétiques, souvent des cannabinoïdes comme le THC, mais surtout le CBD, peuvent être particulièrement efficaces. Et donc, il est fondamental que pour ces jeunes enfants-là, ils puissent avoir accès à ce type de médicaments, de type de substances. En revanche, dans le même temps, d'un point de vue de santé publique, il faut prendre garde à ce que cette diffusion ne soit pas élargie à l'ensemble des jeunes qui ne présenteraient pas, pour le coup, cette maladie, et chez qui, par contre, les risques liés au THC pourraient être plus importants. Sûr. Donc, c'est vraiment toute la difficulté de bien serrer les indications, le cadre de délivrance, le cadre de prescription, de telle façon que toutes les personnes qui en ont besoin, et puis évidemment, là, typiquement, cet enfant puisse y avoir accès, sans pour autant courir un risque à des personnes qui ne présenteraient pas ce type de troubles et chez qui, pour le coup, les risques l'emporteraient.
Julie ?
Oui, alors on a appris par le récit de ce papa qu'en plus, le cannabis était moins nocif que la morphine, parce qu'on lui donnait de la morphine à ce petit garçon.
En effet secondaire, en tout
voilà.
cas.
Voilà, ouais. En effet secondaire, la morphine était pire que le cannabis.
C'est
pour lui faire perdre la tête ou je ne sais quel effet secondaire.
C'est ce qu'on disait en introduction, en fait. Il faut mesurer que l'ensemble de ces substances, qui sont des substances addictives, ont également des propriétés thérapeutiques, toutes. Y compris donc la morphine, c'est bien connu. Mais la morphine, par contre, peut avoir des effets secondaires très, très délétères, très dangereux. Et si l'on compare à ce moment-là les bénéfices-risques de l'usage, notamment chez les antalgiques, c'était dit par Raquel tout à l'heure, dans ce cadre-là, c'est évidemment un moindre mal de prescrire du cannabis thérapeutique que des opioïdes comme l'oxycontin, qui est à l'origine de cette mortalité majeure actuellement aux États-Unis. Donc on voit comment là, c'est un médicament, à l'inverse, qui tue actuellement aux États-Unis avec un opioïde à diffusion très très large, avec des dizaines de milliers de morts chaque année. Donc, quels que soient les produits, il faut vraiment faire des études très fines, rapport bénéfice-risque, et voir les quelques populations pour lesquelles c'est vraiment indispensable ou utile. Et celles-ci doivent y avoir un accès facilité, sans avoir à changer d'état, sans avoir besoin d'aller en Espagne. Mais pour autant, sans faire en sorte non plus que sans éducation et sans prévention,
évidemment,
ces produits soient accessibles à tout le monde avec les risques.
Il y a de l'opium dans la morphine.
C'est de l'opium.
C'est arrivé à la même chose.
Je vous donne la parole dans une minute, Raquel. Vous aurez le temps, on fait juste une petite pause. Raquel Perrault, réagir. Franck Milon aussi. Je remercie infiniment Sébastien pour ce témoignage très touchant. On vous souhaite plein de courage au quotidien. Vous faites un gros bisou à Jagger. Et puis Gérard va venir témoigner. Il nous appelle d'Oueteville. Sa femme bénéficie au CHU de Rouen depuis 5 ans maintenant du cannabis. Elle viendra nous en parler. Enfin, pas spécifiquement au CHU de Rouen. Je pense que c'est plus compliqué. Mais elle vient témoigner. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, le cannabis thérapeutique en question. En quoi peut-il être utile? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
On en parle à la veille d'une grande conférence européenne Cannabis Europa qui se déroule demain à la Maison de la Chimie à Paris. Vous y serez les uns et les autres, Jean-Michel Delisle, Raquel Perrault, Franck Milon, parce que vous connaissez ce sujet. Alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament a annoncé en septembre la création d'un comité qui est chargé d'évaluer la pertinence du cannabis thérapeutique en France. Donc on progresse quand même sur l'appréhension de ce sujet, alors que 82% des Français seraient favorables au cannabis thérapeutique. ciblée, encadrée, comme on l'a précisé.
Donc légalisée, quoi.
Légalisée.
Il faudrait légaliser en France.
Absolument. Mmh. On va revenir dans un instant sur le témoignage de ce papa. Raquel Perrault, vous vouliez réagir comme docteur en médecine
oui,
et addictologue.
Oui, je voulais parler avec, par rapport aux effets secondaires. On parle toujours des effets secondaires du cannabis. Et c'est vrai, l'eau de robinet a des effets secondaires. Alors, tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais on ne parle pas des effets secondaires des médicaments qu'on utilise pour le traitement de l'épilepsie qui sont irréversibles, très, très, très graves par rapport aux effets secondaires du cannabis. Et alors, si la plupart des patients qui n'ont pas réussi au traitement conventionnel de l'épilepsie avec des effets secondaires gravissimes, ont réussi avec le CBD avec des effets secondaires minimales. Quelle est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de comprendre cette histoire? Et je pense que c'est l'histoire de la prohibition qui n'a pas permis les politiciens et même mes collègues, les médecins. On a la banalisation d'un
que
côté
c'est de la drogue, Raquel
et la rejet de l'autre.
Parce qu'on a des médicaments d'un côté, on a une drogue de l'autre, dans l'opinion, vous voyez.
Plusieurs des effets secondaires des médicaments conventionnels ont été réduits à la base du cannabis.
Mais là, je voudrais vous faire réagir tout de suite, Jean-Michel Delisle, avant Franck, parce que, attention, en France, il y a des parents qui ont des enfants épileptiques, qui ont cessé ces traitements conventionnels, comme vous dites, pour traiter l'épilepsie, et qui l'ont remplacé avec de la CBD achetée n'importe comment sur Internet. Ça a été catastrophique, il faut le préciser.
C'est bien pour ça, oui. Qu'il faut absolument trouver des modalités de régulation fondées sur des preuves scientifiques. Alors, effectivement, avec la diffusion des informations non contrôlées, notamment sur les réseaux sociaux, un certain nombre de parents qui étaient confrontés à des situations dramatiques chez leurs gosses avec des états de mal épileptiques ont pris l'initiative par eux-mêmes en fait, d'interrompre les médicaments traditionnels pour les remplacer par des substituts cannabinoïdes d'origine d'ailleurs mal identifiée et de contenu mal identifié, ce qui fait que ça contribue à aggraver encore la situation de leur enfant. C'est pour ça que vraiment, il ne faut pas non plus se fonder sur des rumeurs où on présenterait les cannabinoïdes comme une forme de panacée totalement inoffensive et qui marche sur tout, mais essayer de voir dans quel domaine le rapport bénéfice-risque est favorable.
C'est ça. Et les témoignages sont quasiment uniques à chaque fois. Enfin, il faut vraiment étudier le cas.
Ce que je voudrais dire aux politiciens...
Et surtout, il faut des produits contrôlés, c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de disponibilité de produits avec une qualité pharmaceutique en France. Et c'est pour ça que des gens sont obligés de commander des produits sur Internet et en ignorant ce qu'il y a véritablement à l'intérieur. Aussi, j'aimerais rappeler...
Franck, vous l'avez fait, ça, vous, au départ, avant d'aller jusqu'en Espagne pour acheter vos cannabinoïdes?
Alors, j'ai déjà commandé des produits CBD sur Internet, j'ai déjà acheté des fleurs de CBD en Suisse, et puis dans tous les cas, même quand j'achète du cannabis THC en France, je n'ai pas la certitude, je ne sais pas ce qui a été mis pendant la production de ces fleurs-là à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a des métaux lourds, je ne sais pas comment elles sont titrées, à quel pourcentage de THC il y a véritablement à l'intérieur.
Donc vous prenez des risques.
Et donc je prends des risques parce que le système de santé français n'assume pas ses responsabilités. J'aimerais quand même rappeler, on présente le cannabis thérapeutique comme quelque chose de nouveau en France, mais les inflorescences de cannabis faisaient partie de la pharmacopée française jusqu'à dans les années 40. En France. Après, il a été supprimé de la pharmacopée française, mais on pourrait très bien le réintégrer. C'est pas quelque chose de nouveau. On avait l'exploitation des inflorescences de cannabis. Donc aujourd'hui, on a de la médecine translationnelle.
Je sais pas ce que ça veut dire, ça.
C'est des approches qui sont là pour combler les trous entre la recherche scientifique et les pratiques cliniques.
D'accord.
Donc ça, c'est des approches qui sont arrivées dans les années 60 et qui sont défendues en France très, très fortement.
Mais vous sent militant parce que vous souffrez dans votre chair et que ce cannabis vous fait du bien.
Bien sûr.
Mais encore une fois, les témoignages ne se ressemblent pas. Et c'est pour ça
C'est pour ça qu'il faut mettre en place des suivis scientifiques. Là, dans ce que je vous parle de médecine transgénérationnelle et de real world data,
c'est des
approches qui sont scientifiques et qui sont défendues par le système français.
On va reposer le débat. Le 27 décembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament a jugé pertinent, c'était il y a deux mois, d'autoriser l'usage de cette plante pour les patients dans certaines situations cliniques. L'agence, elle ouvre la porte à cette réflexion quand même.
Oui,
vu d'Uruguay, qu'est-ce que vous dites, Raquel Perrault?
Je voudrais dire... Au début du programme, vous parlez des paradoxes.
Oui.
Je ne crois pas que ça, c'est un paradoxe. C'est la même histoire qu'avec tous les médicaments.
Ce que disait Jean-Michel Delisle.
Que les politiciens, avec l'idée de protéger la population, la mettent en danger parce que le marché ne s'est pas régulé légalement. Mmh. Le marché est déjà régulé par le trafiquant et par les personnes qui ne sont pas. Ils ne sont pas des délinquants, mais ils produisent illégalement le cannabis. Ce sont des produits qui ne sont pas contrôlés. On ne sait pas qu'ils sont. Même s'ils n'ont pas des adultérants, il peut avoir des produits comme les aflatoxines qui sont oncogéniques. Il y a beaucoup de dangers.
Oui, mais vous comprenez bien la question
de penser.
Non, mais il y a une question entre légaliser le cannabis thérapeutique et légaliser le cannabis tout court, qui est encore une autre émission et on la fera peut-être un jour, mais qui là peut effrayer les parents, peut effrayer les familles et aussi pour la politique tout entière.
Mais le médical est
on est d'accord.
Une demande d'urgence.
Juste un message de Tristan qui nous écrit de Boulogne. Il est traité par morphine et par d'autres médicaments antidouleurs depuis 4 ans. Je ne sais pas de quoi il souffre. Est-ce qu'une substitution par le cannabis peut être recommandé de manière légale? Aujourd'hui, Jean-Michel Delisle, on doit lui répondre non.
De manière légale, on a un dispositif dérogatoire, mais qui est très difficile à utiliser en France, qui se dénomme autorisation temporaire d'utilisation, donc des ATU nominatives. Il faut passer par une pharmacie hospitalière, il faut des prescriptions spéciales, c'est assez compliqué.
Autorisation temporaire.
En plus, il faut un dossier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui s'y refusent, parce que ça demande quand même
c'est
de la paperasse à réaliser.
Et ce que l'on souhaiterait, effectivement, ce qui avait été recommandé d'ailleurs par le comité ad hoc, l'agence du médicament, c'est de pouvoir intégrer les douleurs réfractaires dans le champ des indications possibles. Parce que là, on a parlé des crises d'épilepsie chez les enfants, on a parlé des troubles spastiques dans la sclérose en plaques, c'est quand même des troubles relativement rares. En revanche, les douleurs chroniques réfractaires, il y en a beaucoup, ça concerne énormément de monde.
Ils sont liés par exemple au traitement anti-cancer ou pas?
Oui, essentiellement.
Alors, il y a les soins de support.
Les douleurs cancéreuses sont le prototype même des douleurs chroniques. Et en l'occurrence, on sait que les opioïdes, les dérivés de l'opium, donc la morphine, etc., qui sont des traitements de référence, ont une perte d'efficacité au bout d'un certain temps et même parfois amplifient la douleur. Ce qui fait qu'on est vraiment à la recherche d'alternatives et dans ce cadre-là, des dérivés cannabinoïdes, y compris le THC d'ailleurs, peuvent être intéressants. Mais de la même manière, il faut bien décliner des indications, le cadre de prescription et dans un premier temps, en tout cas, évidemment, là ce serait rien d'égal quand même des opioïdes comme traitement algique. Ça ne serait pas un traitement de substitution, ça serait sans doute un traitement adjuvant, complémentaire, qui viendrait accroître l'effet bénéfique.
Une chose très importante pour la population, c'est de savoir que le cannabinoïde, le cannabis a des interactions avec les autres médicaments. Et fréquemment, ils commencent à prendre ces produits sans surveillance médicale et ils ont des effets secondaires qui ne sont pas dérivés du cannabis.
Non, qui sont liés à l'interaction.
Alors,
d'autres médicaments.
C'est pas de faire cette histoire est très importante et peut changer vraiment la santé publique.
Bien sûr.
Mais il faut le faire avec conscience et sérieusement.
Et un encadrement médical. Quoi.
Exactement.
Oui, je donne la parole à Franck Milon juste après la pause, qui est atteint d'une sclérose en plaques, qui bénéficie de ce traitement à base de cannabinoïdes. Il nous redira son parcours du combattant pour s'en procurer. Gérard va témoigner juste après de l'état de sa femme qui en bénéficie également. À tout de suite.
À l'occasion de la conférence Cannabis Europa qui se tiendra demain à la Maison de la Chimie à Paris, de nombreuses questions se posent sur l'efficacité du cannabis à usage thérapeutique alors que plusieurs pays ont commencé à le légaliser. C'est ce dont nous parlons jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard.
Avec nos invités, Jean-Michel Delisle, psychiatre, addictologue, directeur du Centre d'études et d'informations sur la drogue et les addictions. Raquel Perraube qui est venue d'Uruguay pour participer à cette conférence, qui est avec nous en studio, docteur en médecine, addictologue et militante pour le cannabis, en particulier médical en Uruguay. Franck Milon est représentant pour l'Union francophone pour les cannabinoïdes. Vous allez témoigner de nouveau, Franck, après les mots de Gérard qui est avec nous au 3921. Bonjour Gérard.
Bonjour Wendy.
Bonjour monsieur, merci de prendre la parole. Vous voulez témoigner pour votre épouse en réalité qui a deux maladies aujourd'hui, oui. Racontez-nous.
Oui, elle est atteinte de fibromyalgie et de myasthénie. Ça a été décelé, la myasthénie il y a à peu près 6 ans et la fibromyalgie 4 ans.
Qu'est-ce que c'est juste la myasthénie, fibromyalgie? Vous pouvez nous expliquer?
Alors, la myasthénie, c'est une maladie. Enfin, il y a un médecin dans votre studio qui saura certainement mieux répondre que moi. Mais la myasthénie est un dérèglement des neurotransmetteurs entre les nerfs et les muscles.
D'accord.
Donc, ce sont des maladies auto-immunes. Et la fibromyalgie est une maladie qui atteint, notamment les articulations et qui donne des douleurs très très intenses et très régulières.
Donc elle souffre régulièrement, votre femme, avec ces deux maladies auto-immunes, hein.
Absolument, et surtout la fibromyalgie. Mm-hmm. Et donc, les traitements qu'elle prend, elle est suivie sur Imurel, hydrocortisone, Laroxil, enfin les médicaments classiques pour ce type de maladie apparemment. Mais elle a des douleurs énormément, notamment la nuit, et elle passait des nuits blanches totales à cause des douleurs issues de ces deux maladies.
Alors Gérard, à quel moment le cannabis thérapeutique, ce qui nous réunit, intervient dans votre parcours ?
Alors attention, elle ne bénéficie pas de cannabis thérapeutique. C'est un choix que l'on a fait, enfin qu'elle a fait cet été, puisque là les douleurs étaient vraiment trop importantes pour tester le cannabis, parce qu'elle est beaucoup sur des forums avec des malades et bon, ça circule que effectivement ça, pour certains, ça peut apporter du bien, et puis elle s'est dit pourquoi pas, quoi. Donc elle en a parlé évidemment après
à son médecin,
au corps médical, à sa neurologue entre autres, qui lui a dit bon, je ne cautionne pas, bien évidemment, parce que moi, je peux rien faire pour vous,
parce que
pour
toutes les raisons qui ont été
évoquées tout à l'heure, écoutez, si ça peut vous apporter du bien, de toute façon, je peux pas vous l'interdire, si vous avez envie, vous avez envie.
Vous en êtes procuré par les voies illégales,
absolument,
on va pas dire comment.
Oui, exactement.
Et donc, elle le fume, le cannabis, aujourd'hui?
Oui, tous les soirs, elle fume du cannabis tous les soirs avant d'aller dormir.
Elle a quel âge, votre femme ?
63 ans.
Et elle n'avait jamais fumé de cannabis auparavant ?
Non. Elle avait essayé quand elle était jeune, peut-être un peu comme tout le monde parfois à cette époque-là, mais jamais.
Et donc aujourd'hui, vous voyez votre femme qui souffre moins après avoir fumé ce cannabis qui n'est pas
thérapeutique ? Oui, absolument. Absolument. Alors après, effectivement, il y a les effets secondaires qui sont liés aussi à ce produit, qui ne seraient certainement pas là si on avait une solution avec du cannabis thérapeutique.
Oui, par exemple, quels effets secondaires, Gérard ?
Les effets secondaires du cannabis, c'est-à-dire un effet planant, un effet... Donc elle en prend juste avant d'aller dormir, ça va.
Et addictif, j'imagine.
Et alors, ça, je ne sais pas. Non. Très honnêtement, je ne peux pas savoir si c'est addictif. Mais...
Gérard, vous voulez bien rester avec nous, et vous restez en ligne et vous échangerez aussi avec ce que peut nous dire Franck Milon. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'un cannabis thérapeutique. C'est pas un joint médical, ça n'existe pas. Mais voilà, c'est ce que cette femme a trouvé comme solution.
Gérard vient de très bien expliquer le problème. C'est que même le corps médical, du coup, se rend bien compte qu'il y a des bénéfices à en tirer, mais qu'ils n'ont pas de solution à proposer dans leur cadre de pharmaceutique classique, avec des produits qui sont standardisés, qui sont normalisés et dont on sait quel principe actif il y a à l'intérieur. Et puis se procurer du cannabis de manière illégale pour un usage thérapeutique, le problème c'est que la majorité du cannabis en France qui circule illégalement, c'est du cannabis à fort niveau de THC, entre 15 et 20% de THC. Et c'est ça qui engendre aussi les effets secondaires. Oui. Et ça, ces effets secondaires-là, les effets planants, peuvent être compensés par l'utilisation de cannabidiol, qui vient moduler l'effet du THC et réduire ses effets secondaires.
Sauf qu'on ne va pas jouer au petit chimiste à la maison et que non. Ça, si
et
on n'a pas d'encadrement légal,
effectivement,
ça marchera pas.
Il faut que ce soit le corps médical, qu'il faut replacer le médecin et les patients au centre du débat, donner des solutions aux professionnels de santé pour qu'ils ne laissent pas les patients sans réponse et dans des zones de risque. Et parce que l'usage de cannabis est une réalité dans les hôpitaux en France, dans les centres de soins de support en oncologie, ça fait des décennies déjà que des patients consomment du cannabis pour soulager leur maux. C'est une indication qui a été ouverte par le CSST, par l'Agence du médicament, qui est les soins de support en oncologie. Mmh. Et aujourd'hui, les médecins n'ont rien à faire en dehors que de voir que leurs patients se procurent du cannabis ou cultivent du cannabis, mais sans avoir de contrôle qualité et de pas pouvoir mettre en place des suivis véritablement de cohorte. Suivis de cohorte et avoir un suivi scientifique de ces usages de cannabis à usage thérapeutique.
J'aimerais faire réagir Jean-Michel Delisle là-dessus et ensuite Raquel, psychiatre et addictologue, sur ce que vient de nous dire Gérard. Quand on parle de légaliser le cannabis thérapeutique en France, il n'est pas question, en l'occurrence, là, puisqu'elle parlait de joint, de légaliser le joint médical. Le cannabis thérapeutique ne se fumerait pas.
Non.
Exactement.
Non, non, non. Il y a deux cadres d'utilisation des cannabinoïdes. Or, un qui est déjà en route insuffisamment, mais enfin, qui avance, c'est des médicaments. Alors, pour le coup, qui suivent le trajet normal du médicament avec des études bénéfices-risques, etc.
Et la composition
et
du produit.
Et dont on a parlé tout à l'heure, des difficultés d'accès en France, mais j'espère que ça va être levé prochainement.
Oui.
Et puis, il y a le cannabis thérapeutique, donc directement issu de la plante, mais qui, évidemment, serait présenté sous des formes non fumées, puisque le fait de fumer avec des goudrons, etc., est évidemment complètement toxique.
En gélule,
éventuellement par voie orale, sous forme de vaporisation. Enfin, il y a toutes sortes de dispositifs qui permettraient d'avoir accès à du cannabis titré, oui, contrôlé, mmh, oui, avec une démarche qualité, mmh, et qui pourrait être utilisé. Alors, juste un point par rapport à la douleur. On a beaucoup avancé. Il y a des domaines où les cannabinoïdes ont fait la preuve de leur efficacité. C'est notamment les douleurs neuropathiques. C'est notamment certaines douleurs inflammatoires. Ça peut être aussi un traitement tout à fait intéressant, adjuvant par rapport à des douleurs réfractaires, rebelles, enfin qui réagissent mal au traitement en cours. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que la douleur en soi, c'est un phénomène complexe. C'est-à-dire, il y a une dimension sensorielle, évidemment, oui, mais il y a une dimension émotionnelle majeure. On sait que quand on est tendu, quand on ne va pas bien, on a plus mal dans son corps.
C'est ça.
Et de la même manière, quand on a mal dans son corps, on a aussi mal dans sa tête.
Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi, là le médecin sera très important, entre l'aspect confort et l'aspect curatif.
Ce que ça veut dire absolument, c'est que si le cannabis soulage la douleur, c'est non seulement, sans doute, parce que ça a un effet contre la douleur en tant que telle, mais aussi parce que ça a un effet euphorisant, c'est-à-dire qu'il agit sur la composante émotionnelle de la douleur. On peut imaginer que l'épouse de Gérard, si elle retrouve le sommeil, c'est aussi parce que le cannabis est sédatif.
C'est-à-dire
que c'est pas simplement l'effet antalgique, c'est aussi parce que c'est apaisant, c'est aussi parce que c'est un petit peu euphorisant. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se priver éventuellement, y compris des effets du THC,
exactement,
ne pas tout cibler sur le CBD. Le THC peut avoir aussi un intérêt,
ouais,
mais encore une fois, dans le cadre d'une étude scientifique, ouais, d'une démarche rationnelle.
Et merci en tout cas Gérard pour ce témoignage et nos amitiés à votre épouse. Je lirai celui de Fabrice dans un instant. Vous vouliez réagir, Julie, avant Raquel?
Oui, je voulais savoir si on pouvait les prendre à vie, ces cannabinoïdes.
Raquel Perrault, parce que ce sont des traitements.
Tant qu'on a mal.
Le problème que nous avons, que la recherche n'a pas été financée, autorisée, et on ne connaît pas. Et de point de vue scientifique, les effets à long terme. Mais ce qu'on sait, c'est que l'usage pendant des années des patients avec, par exemple avec le CBD, on ne voit pas des effets secondaires par le suivi clinique. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. C'est différent avec les enfants. Avec les enfants, on n'a pas des démonstrations s'il aura ou pas des effets à long terme. Mais toute la médication qu'ils sont en train de prendre pour l'épilepsie ont des effets à long terme aussi.
Ce que nous dit Fabrice.
Une autre fois, la relation coûte-bénéfice.
C'est ça, ce que nous dit Fabrice.
C'est toujours la même histoire.
Danger, son enfant de 4 ans est épileptique. Ils ont essayé 8 médicaments ainsi qu'un stimulateur. Ils attendent le cannabidiol car leur fils a fait une hépatite à cause d'un médicament qu'ils ont utilisé dans ce cadre de traitement épileptique. Voilà, les bénéfices fameux, bénéfices risques, vous l'évoquez.
Il y a effectivement beaucoup de médicaments qui sont couramment utilisés, qui présentent de l'hépatotoxicité. Et ça, c'est quelque chose dont les composants du cannabinoïde ne le pose pas. Donc ça fait des options qui sont avec malgré tout moins d'effets secondaires et qui parce qu'on parle pas de consommation pour des gens sains, on parle des consommations pour des malades.
Absolument.
C'est des gens qui ont des handicaps, qui ont des problèmes de santé.
Et on fait une petite pause tout de suite.
Les dernières minutes de l'émission consacrée au cannabis thérapeutique. Wendy Bouchard.
Vous vouliez réagir à Raquel Perrault en qualité de docteur en médecine, addictologue. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent « Nous, on voudrait laisser tomber les traitements pour le traitement de l'épilepsie de nos enfants pour le remplacer par du cannabis. » Attention, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas un miracle,
et c'est pas de cette façon. Et on a la tendance à dire que comme c'est naturel, de la nature, c'est mieux. Et ce n'est pas vrai, il y a des toxines à la nature quand même. Mais en plus, ces traitements ne se font de cette façon. On commence à introduire les cannabinoïdes et on voit les effets. Et de moment qu'ils commencent à améliorer, on doit penser quel est le médicament conventionnel qu'il faut commencer à descendre.
À baisser, oui.
Et ce n'est pas qu'on fait...
On ne fait pas une substitution directe.
Ils peuvent rechuter à les symptômes d'une façon gravissime. Alors,
bien sûr,
il faut être attentif.
Il faut doser.
La tendance est de dire arrête avec tout. Ouais. Je commence avec le cannabis.
Ça, c'est très grave.
Ce n'est pas comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est un problème. Parce que comme les médecins ne sont pas entraînés pour le faire, il ne sait pas comment le faire. Alors, l'éducation médicale, c'est un point clé à ce sujet. Et finalement, je voudrais dire, essayez de ne pas fumer. On ne fume un médicament. La voie inhalatoire même a été idéalisée. Parce que les patients ont été éduqués par les growers, les personnes qui cultivent.
Les cultivateurs. Oui.
Mais en réalité, la vaporisation est utile à 7, maximum 7 usages. C'est l'usage aigu. Mais nous traitons des maladies chroniques. Pourquoi faire des effets aigus qui vont augmenter la possibilité de développer une dépendance chimique?
Sauf pour des pics de douleur.
Pas de fumer, d'inhaler, mais avec des indications très précises.
On va terminer par la situation en France, Jean-Michel Delisle, qui nous intéresse, et ce sera évoqué demain à la Maison de la Chimie dans cette conférence Cannabis Europa. D'ici juin 2019, le comité d'experts qui a été mis en place, notamment par le ministre de la Santé, devra avoir rendu ses conclusions sur ces modalités de prise en charge médicale des patients, sur les conditions peut-être d'une expérimentation. Vous y croyez? C'est en bonne voie ou pas en France?
Je pense que c'est en bonne voie, puisque la ministre Agnès Buzyn avait ouvert la porte en disant qu'elle n'est pas du tout opposée, évidemment, à ce qu'on ouvre des possibilités nouvelles de traitement à des personnes qui en auraient besoin. Je crois qu'au plan technique, grâce aux expériences internationales, on arrive à voir à peu près dans quel sens nous pourrions avancer de manière rationnelle, avec des indications pondérées. Le problème peut-être le plus complexe, c'est d'élaborer en France des circuits de diffusion et de distribution face à quelque chose qui n'existe pas, puisqu'on a le circuit du médicament. Et là, dans le circuit du médicament, le cannabis thérapeutique ne passerait pas, parce que les niveaux d'exigence maintenant en termes de sécurité sont tels que ça ne pourrait pas être mis en œuvre raisonnablement. Oui. Donc il va falloir créer un système ad hoc, comme ça existe d'ailleurs au Canada ou dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est sans doute cette dimension-là qui sera un petit peu compliquée. Et juste un mot par rapport au débat qu'il y avait tout à l'heure. Il ne faut surtout pas que le débat compliqué sur le cannabis récréatif obère celui sur le cannabis thérapeutique.
Totalement.
C'est une urgence.
C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé.
Récréatif, ça viendra sans doute peut-être plus tard.
Merci
infiniment. Pas différer le cannabis thérapeutique.
Et on vous suivra sur le sujet. Jean-Michel Delisle, Raquel Perrot, merci infiniment. Franck Milon, le cannabis thérapeutique en question. Demain, à la Maison de la Chimie, si ça vous intéresse, vous aurez les conclusions sur le site internet de cette association. À tout de suite. À demain, pardon.
À demain.
C'était Wendy Bouchard. À demain.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.